Fabien Albert. Et d'ici 10h, on va s'arrêter à Tunis dans un atelier d'écriture animé, entre autres, par l'écrivain congolais Alain Mabankou. Afrique Éco, comment développer en Côte d'Ivoire la filière transformation de la mangue. Et puis une pépite cubaine dans notre choix musical du jour, la Orquesta à Cocane.
Nathalie Amar.
À la une du prochain journal sur RFI, les Britanniques aux urnes, élections générales et défaites annoncées des conservateurs. On sera à Londres où les travaillistes se préparent après 14 ans à retrouver Downing Street. J-3 en France avant le second tour des législatives anticipées. La campagne prendra fin demain soir. Beaucoup de secteurs de la société civile appellent à voter contre le Rassemblement National. À l'image, vous l'entendrez à 10h, des représentants du culte musulman. Et puis à Paris, le nouveau ministre sénégalais des Mines et du Pétrole, Biram Souley Diop, dénonce l'assujettissement des États africains aux pays qui exploitent leurs ressources. Il en sera question donc dans le journal de 10h. Enfin, le Tour de France cycliste, Mark Cavendish, plus fort encore qu'Eddy Merckx. Le Britannique a remporté hier une 35e victoire d'étape sur la Grande Boucle. Et le cyclisme, on va y revenir avec vous dans un instant, Victor Missistrano. Mais d'abord le basket, à l'approche des JO. On connaît déjà le tableau du tournoi féminin. Pour les sélections masculines, il reste 4 places à prendre.
Une par tournoi de qualification olympique, des TQO qui se déroulent en ce moment même en Grèce, en Espagne, en Lettonie et à Porto Rico. La Côte d'Ivoire s'y est inclinée pour son premier match. Les éléphants ont failli faire tomber la Lituanie, 6e du dernier mondial. Une défaite rageante, 97-93. Nacho Lescano, le sélectionneur espagnol de cette équipe ivoirienne, retient surtout la belle prestation de son équipe.
On a fait un très bon match, c'est le match qu'on voulait, c'est le match pour lequel on s'est préparé. On a commencé avec un bon état d'esprit, on a mis de l'énergie, de la concentration. Je pense qu'on a gardé cet état d'esprit, cette énergie et cette concentration pendant tout le match. Tout le monde pensait peut-être qu'on allait sortir de notre match et que la Lituanie allait prendre l'avantage au score, mais on a mis nos paniers petit à petit et même si on est redescendu après les avoir menés au score, on a toujours gardé le moral jusqu'à la dernière minute. On a aussi fait un super effort et un excellent travail. Je ne peux donc que féliciter mes joueurs. Maintenant, on va se reposer et encore une fois se reconcentrer pour affronter le Mexique, dont l'effectif et le style de jeu sont complètement différents de ceux de la Lituanie.
Des propos recueillis par Molamine Sissavané. Et si la Côte d'Ivoire bat le Mexique ce soir à 21h30 temps universel, elle rejoindra les demi-finales. Même chose pour l'Angola, opposée au Liban à 15h30 TU. De son côté, le Cameroun a échoué à 4 points seulement du Monténégro, 70-66. S'il ne veulent pas rentrer à la maison, les Camerounais doivent absolument battre le Brésil à 16h TU. Et puis à 18h, mission périlleuse pour l'Égypte, obligée de battre la Grèce chez elle au Pirée.
Le cyclisme sur les routes du Tour de France, Victor, 5e étape hier.
Et tous les voyants sont au vert pour Binyam Girmay, vainqueur de sa première victoire sur la Grande Boucle lundi. L'Érythréen de 24 ans a pris hier la tête du classement par points. Il s'est emparé donc du maillot de meilleur sprinter, une petite consécration pour le coureur de l'équipe Intermarché Wanty.
Le vert me va très bien, je trouve. C'est très sympa de porter ce maillot. Et pour moi, en tant que sprinter, c'est mon but absolu sur toutes les courses. Peu importe que cela soit sur le Giro, sur la Vuelta. Et c'est encore plus spécial sur le Tour. Le maillot vert, c'est le symbole des meilleurs sprinteurs du monde. Donc je suis vraiment super content de le porter. Vous n'avez pas cette chance, cette opportunité tous les jours, vous savez. Ni même tous les ans. Donc je suis vraiment juste super content.
Et une nouvelle occasion de briller pour Binyam Girmay aujourd'hui, 6e étape de ce Tour de France, 163 km entre Mâcon et Dijon.
On termine avec du football aujourd'hui, première étape vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, cette CAN se jouera au Maroc entre la fin de l'année 2025 et le début 2026. Le tirage au sort a lieu à 12h30 temps universel à Johannesburg. Illiman Diaye jouera peut-être cette CAN avec le Sénégal. En attendant, c'est officiel, Nathalie, le jeune ailier retourne en Angleterre. Après une seule saison, il quitte l'OM pour Everton.
Victor Missistrano pour l'actualité des sports qui revient évidemment en direct dans RFI midi 10, temps universel. Pour l'heure, on est en Tunisie, dans une période politiquement mouvementée. Les écrivains continuent d'observer, de croquer le pays. Ces derniers jours, de grandes plumes, Alain Babankou notamment, ou Mabrouk Rachedi, ont animé justement à Tunis des ateliers d'écriture. Notre correspondante Amira Souilem s'y est glissée pour tenter de comprendre ce qui inspire les auteurs tunisiens en ce moment.
1, 2, 3, on y va.
Des exercices d'écriture minutés à la seconde près. En pleine médina de Tunis, le romancier français Mabrouk Rachedi mène son atelier au chronomètre. Premier exercice, écrire une histoire vraie et une fausse.
Il faut que la fausse histoire apparaisse vraisemblable, on puisse tous penser qu'elle soit vraie. Mon métier, c'est de raconter une histoire en faisant croire qu'elle est vraie, ou en tout cas qu'elle est vraisemblable.
Face à lui, des jeunes romancières en devenir, comme Nawel.
La culture tunisienne, je trouve que c'est une culture extraordinaire en termes de paradoxe. À la fois, on aime être très moderne, mais on est très conservateur. On est toujours, je pense, dans un dilemme permanent.
Elle, qui a vécu en France pendant de nombreuses années, n'a commencé à écrire qu'à son retour en Tunisie.
Je trouve que déjà la lumière, ça inspire. La société bouillonnante, les échanges humains, le côté humain en Tunisie, je pense que c'est ce qui a déclenché aussi mon envie d'écrire.
Quelques jours plus tard, toujours en plein centre de Tunis, c'est l'auteur congolais à grand succès, Alain Mabankou, qui fait face à 10 apprentis romanciers. Au-delà des techniques d'écriture, il veut surtout démythifier l'exercice.
Et la peur de commencer qui, chaque fois, nous saisit lorsqu'on écrit un nouveau livre.
Sénégal, Togo, Ghana, Nigeria et maintenant Tunisie, il veut faire sauter les verrous africains.
Beaucoup de jeunes auteurs ici ont des manuscrits, mais ils ne savent pas comment les envoyer à un éditeur, ou ils pensent que leur manuscrit n'a pas le même poids que les manuscrits des autres, et ils restent comme ça, dans une fatalité qui s'installe comme une culture.
Tarek Lamouchi écrit de la science-fiction. Alors que son pays traverse une période mouvementée faite d'instabilité politique et économique, il y puise son inspiration.
Oui, l'angoisse, c'est un moteur de créativité, en fait. Donc, je crois que quand la situation elle est un peu difficile, ça donne des idées. La lecture, ça devient en quelque sorte, pour certains, un échappatoire pour sortir de cette réalité, et même pour les lecteurs aussi.
Première scène intérieure.
Des auteurs qui écrivent dans un pays réputé lire peu et qui comptent sur la jeune génération pour changer les habitudes. Amira Souilem, Tunis, RFI.
Afrique Économie est en Côte d'Ivoire ce matin, où la saison de la commercialisation de la mangue touche à sa fin. Le pays produit près de 150 000 tonnes de mangue fraîche. Mais pour valoriser la filière, il faudrait développer la transformation du fruit. Pour l'instant, c'est une option encore limitée, peu exploitée. Certaines usines, malgré tout, se sont lancées dans la transformation de mangue fraîche en mangue séchée. C'est un reportage de Binta Diagne.
C'est une petite usine située dans un quartier périphérique de Ouangoloudougou. Ici, chaque jour, en pleine saison, ce sont 20 tonnes de mangues fraîches qui sont acheminées sur des tricycles par des producteurs de la région. Les mangues sont triées, lavées, puis traitées afin de répondre aux exigences sanitaires des clients. Sita Koulibaly supervise la salle de calibrage.
On enlève les déchets, tout ce qui n'est pas bien. Et puis bon, à la longueur, l'exigence du client qui demande, je veux telle taille, telle taille. Donc par rapport à ça, on trie. Et puis après les tri, les bonnes mangues, on met dans les sachets, on pèse et puis on envoie ça chez le client.
Cette petite usine mise sur l'exportation vers le Ghana, puis l'Europe dans un second temps. Car selon Bazouma Ouattara, le directeur de l'usine de séchage de mangue de Ouangoloudougou, le marché intérieur n'est pas encore réceptif à ce produit.
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de marché. Les Ivoiriens ne connaissent pas la mangue séchée. Les supermarchés non plus.
Donc vous, vos clients, ils sont où ?
Ils sont au Ghana, c'est HPW. On a un client qui est fidèle et quelle que soit la situation, il prend d'autres mangues.
Pour cet entrepreneur, l'une des difficultés, c'est la maintenance des machines qui, pour l'essentiel, sont importées de l'étranger. Bazouma Ouattara.
Lorsqu'une pièce s'abîme, il n'y a pas le remplacement ici. On ne peut pas acheter, on n'a pas un magasin de vente des pièces en Côte d'Ivoire. Il faut appeler en Afrique du Sud et la pièce arrive par DHL. Donc vraiment, c'est compliqué.
La période de commercialisation est courte, elle dure à peine 3 mois. Pas évident donc d'investir dans le conditionnement des mangues. Pour contourner cet obstacle, René Yeo, le directeur de l'usine Ivoire Biofruits, a décidé de diversifier ses activités au sein même de son usine.
Il faut à la fois plusieurs machines qui puissent faire une grande capacité en moins de 3 mois afin de pouvoir véritablement rentrer dans ces fonds. Au niveau de Ivoire Biofruits, nous avons envisagé diversifier nos systèmes de transformation en essayant d'élargir à d'autres fruits tels que l'ananas, le coco et d'autres fruits tropicaux.
Ce responsable de la profession Intermangue préconise par ailleurs un soutien de l'État au privé afin de développer davantage l'industrialisation de cette filière. Binta Diagne, de retour de Ferkessédougou, RFI.
RFI, 9h52, Afrique Éco évidemment à retrouver sur RFI.fr. Voici le choix musical du jour avec ce matin Hugo Casaligno de la programmation musicale. Bonjour Hugo.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors il fait gris, on va partir chercher le soleil l'été à Cuba avec la crème de la crème, la Orquesta Acocan.
Ven y bailalo ahora.
Oui, Acocan qui veut dire du fond du cœur hein, en langue yoruba. Alors pourquoi la crème de la crème? Eh bien parce que cette formation regroupe auteurs du chanteur José Pepito Gomez, des musiciens des trois groupes salsa et latin jazz les plus emblématiques de l'île ces 30 dernières années. Eneje la Banda, Los Bamban et Irakiri. Mais je vous propose, avant d'aller plus loin, de remonter le temps.
Pas de doute Hugo, hein, ce qu'on entend c'est bien du mambo. Hein.
En effet, car la particularité de la Orquesta Acocan c'est de jouer le mambo et les rythmes afro-cubains tels qu'on les jouait dans les années 40 et 50. Vous savez, c'était de grosses formations, hein, à l'image des orchestres de jazz américains de l'époque. D'ailleurs, on peut considérer cette époque comme l'une des plus riches dans l'histoire de la musique, car le jazz américain, comme le son cubain, se sont influencés, hein, croisés, mêlés. Les rythmes afro-cubains se sont retrouvés dans le jazz et des arrangements jazz sont apparus dans la musique cubaine pour donner le mambo. On laisse tomber la guitare, les violons, puis on introduit les saxophones en compagnie des trombones et trompettes qui se répondent comme des chœurs, et on improvise des parties solo.
Mais bizarrement, à Cuba, Hugo, ça n'a pas plu tout de suite.
Non, en effet, mais ça viendra peu de temps après. C'est d'abord dans les villes de Mexico et de New York que ça va exploser, notamment grâce à deux artistes hein, que l'on célèbre toujours à Cuba, le chanteur Benny Moré et le chef d'orchestre Pérez Prado, célèbre pour son tube Mambo No. 5 en 1949 qui s'est répandu comme une traînée de poudre aux États-Unis.
Oui.
Un tube interplanétaire 50 ans après, rappelez-vous, avec la version de Lou Bega en 99. En tout cas, la mode du mambo était lancée. On se souvient de cette scène sublime de Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme » en 56 lorsqu'elle se déchaîne sur du mambo. Puis les compositions mambo hein, de Serge Gainsbourg, bien sûr.
Il faudrait filmer Hugo qui joue des percussions en même temps qu'il nous parle dans le studio 31. Si on a remonté le temps, Hugo, c'est parce que la Orquesta Acocan s'inscrit, dans cette époque musicale aujourd'hui.
Oui, c'est ce qui est aussi remarquable avec cette formation créée en 2017. Hein. Ils ont composé et arrangé des titres dans cet esprit. Hein. Ils ont enregistré dans les studios mythiques Aireto de La Habana pour retrouver ce son hein, mythique des années 50, sans parler de certains clips magnifiques qui vous renvoient aussi hein, à cette époque bénie, cet âge d'or de la musique cubaine, la classe ultime.
Et Et la bonne nouvelle, Hugo, c'est qu'ils reviennent avec un nouvel album.
Mais oui, on vient d'entendre un premier extrait, Pan con Tibili, Caracoles. C'est le titre de ce troisième opus, Nathalie, et il doit sortir la semaine prochaine, toujours chez Dalton Records. Allez, Con Licencia, c'est leur nouveau single plein de chaleur et de lumière, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Et
absolument,
c'est en playlist RFI.
On écoute.
Mi sangre cuenta cheche con licencia lucero en Pembacariri con licencia mi tata Ciro Sánchez son tata en Kisi. Leña en campo pinta, doce en la noche, sala malevo, malevo sala. ¡Oh!
Y se va con licencia en la rama Santo Cristo, buen viaje.
C'était la orchestra à Cocan avec Con Licencia que vous retrouvez bien sûr, hein, comme le reste de la playlist RFI sur notre site musique.rfi.fr et sur toutes les plateformes musicales, Nathalie.
Merci Hugo Casalino pour cette découverte musicale. À très bientôt dans RFI Matin. Merci à Pauline Berthélémy qui était à la réalisation. Dans deux minutes, moins de deux minutes, c'est le journal en compagnie de Jeanne Bartoli. Et puis vous avez rendez-vous avec Juan, avec, non, pas Juan Gomez, justement, Chantal Laureau pour appel sur l'actualité. Excellente journée à tous à l'écoute des RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Aujourd'hui,
en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, nous parlons de la prévention et de la prise en charge des grossesses en milieu scolaire.
Demain,
à Abidjan, rencontre avec des garçons, des jeunes qui s'engagent pour la santé comme pour la défense des droits des femmes.
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Qui sommes en français, qui sommes-nous, se demande la compagnie Barreau d'Evel dans des performances pluridisciplinaires pleines d'humour. Salade, tomate, oignon, répond le seul en scène de Jean-Christophe Folly qui raconte les êtres en quête d'identité et de terroir et s'attaque aux clichés sur les racines et l'héritage.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Spécial esprit de famille à la sauce en sol majeur avec Malek et Dorothée Myriam Kellou, un tête-à-tête père-fille passionnant. L'un cinéaste, l'autre journaliste indépendante, partie enquêter sur le passé colonial du père. Au menu, une guerre d'Algérie et quelques grenades.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Samedi, à partir de 14h10, temps universel et en podcast sur RFI.fr.